Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Et à la une, l'embouteillage dans les centres de vaccination, la campagne de rappel victime de son succès.
Il faut parfois 3 mois pour obtenir un créneau. Beaucoup réclament la réouverture des vaccinodromes. On posera la question à Virginie Garin. Les premiers pas et les premiers faux pas d'Éric Zemmour, vexé après son interview ratée hier soir sur TF1, le polémiste contraint d'organiser sa campagne. Il y a du travail, vous l'entendrez.
À 8h20, notre débat sera consacré à la candidature d'Éric Zemmour face à face dans ce studio. Le maire de Gurgis-le-Château en Côte d'Or soutient Éric Zemmour et Julien Audoul, lui, porte-parole du Rassemblement National.
Dans ce journal également, le témoignage émouvant d'un SDF qui n'a pas hésité lundi à pénétrer dans une boutique en flammes pour sauver un commerçant au péril de sa vie. Et puis le succès de la littérature jeunesse, 75 millions d'ouvrages vendus l'an dernier.
Dès la fin du journal, Cyprien Signy.
Marlène Schiappa ne sait vraiment plus quoi faire pour qu'on arrête de lui parler du lot.
Et à 8h40, la face cachée de la une, Isabelle Choquet.
En un an, on a trouvé plusieurs vaccins anti-Covid. En 40 ans, toujours rien contre le sida, c'est pas bien.
Rendez-vous est pris.
RTL Matin.
3 millions d'injections par semaine. Voilà l'objectif, le rythme souhaité par le gouvernement qui espère, avant dimanche soir, dépasser les 10 millions de doses de rappel. Encore faut-il s'en donner les moyens. Bonjour Virginie Garin.
Bonjour à tous.
Nous sommes nombreux, j'imagine, à avoir tenté de prendre rendez-vous en vain. Dans certains départements, il faut même attendre le mois de mars avant d'avoir un créneau. Qu'est-ce qui est prévu pour accélérer la cadence?
Alors, de nouveaux centres vont être ouverts. Il y en a déjà eu 50 de plus en une semaine et 300 autres pourraient être créés. Ça va dépendre de chaque agence régionale de santé. Elles pourront aussi choisir d'augmenter les capacités des centres existants, il y en a plus de 1000, ou d'installer des lieux de vaccination dans des barnums ou des centres commerciaux.
En ce qui concerne les stocks, on a les doses suffisantes?
Alors on a des stocks et plus de 22 millions de doses seront livrées en décembre en France, Pfizer et Moderna. Les plateformes étaient prises d'assaut ces derniers jours, mais il reste quand même plus de 300 000 créneaux encore disponibles et près de 700 000 vont être ajoutés pendant tout le mois de décembre.
En dehors de Doctolib, est-ce qu'on peut par exemple aller tenter le coup sans rendez-vous?
Oui. Exactement, il n'y a pas que les plateformes, il n'y a pas qu'Internet. N'hésitez pas à appeler votre pharmacien de quartier, votre médecin, les cabinets d'infirmiers. Ils ne sont pas tous sur Doctolib et ils réalisent désormais près de la moitié des injections en France. Ils commandent leurs doses en début de semaine. Donc lundi et hier, ils ont fait de grosses commandes, 2 700 000 doses. Ils seront livrés le vendredi, donc il y aura de nouveaux rendez-vous possibles en fin de semaine.
Merci Virginie Garin pour toutes ces précisions bien utiles. En ce qui concerne les enfants, sachez que la Haute Autorité de Santé a recommandé hier la vaccination des 5-11 ans présentant un risque de faire une forme grave de la maladie, des enfants atteints de maladies cardiaques par exemple, respiratoires, de trisomie ou d'obésité, ainsi que les enfants vivant dans l'entourage d'une personne vulnérable et non protégée par la vaccination. Et puis il y a quelques minutes, Clément Beaune, invité de RTL, le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, a confirmé que la suppression des vols entre la France et l'Afrique australe était prolongée en raison des incertitudes qui planent toujours concernant le variant Omicron.
Et bien justement, la cinquième vague et ses conséquences en matière d'économie.
Qui se font déjà sentir dans certains secteurs. Chez les traiteurs, par exemple, habituellement sollicités à l'approche des fêtes, ont du mal en cette fin d'année à remplir leur carnet de commandes. Reportage à Nancy de Samuel Goldschmidt.
Les commandes des familles démarrent timidement dans la petite entreprise de Marie Sauvage et pour cause.
J'ai l'impression qu'ils ne savent pas trop encore ce qu'ils vont faire à Noël, donc du coup, j'ai moins de commandes de d'habitude. Bah, on ne peut pas se projeter à long terme, quoi. Deuxième année de galère. Ouais.
Incertitude qui peut vite donner le vertige dans des structures plus importantes. Alexandre Laurent dirige Lorraine Réception, 30 salariés, Noël.
C'est le troisième plus gros mois de l'année. Le plus gros volume de commandes, ça va être pour des commandes entre 6 et 8, 10 personnes maximum. Donc c'est vraiment le repas de famille du 24 au soir ou du 25 midi. L'année dernière, on a eu plus de 300 commandes de clients, donc ça fait un volume de plus de 1 500, 2 000 personnes.
Comme l'année dernière, les professionnels s'attendent à ce que les familles ne renoncent pas au réveillon, mais dans des formats revus. Julien Leprovost est artisan au centre-ville.
D'habitude, les volailles pour 10, pour 15, c'était de la grosse dinde, des gros chapons. Là maintenant, c'est fini. On travaille beaucoup avec du petit chapon, ce qu'on appelle du mini chapon, qui sont pour 5-6 personnes et c'est très bien et on en vend de plus en plus justement à cause de ça.
Et chaque artisan va tenter de repousser au maximum le dernier délai pour accepter des commandes.
Un reportage de Samuel Goldschmidt.
Grosse dinde au mini chapon, ouais. C'est un choix délicat. Il est très exactement 8h04. Éric Zemmour est donc depuis hier midi officiellement candidat. Une vidéo publiée sur internet et puis une première interview hier soir, c'était aux 20h de TF1.
Et un entretien qui semble avoir laissé un goût amer aux polémistes qui s'attendaient certainement à des questions plus conciliantes de la part de Gilles Boulot. Il n'a d'ailleurs pas manqué de le faire savoir une fois rentré dans son QG.
Monsieur Boulot n'a pas fait son travail. Il s'est révélé un procureur pugnace, de mauvaise foi, me sortant des phrases de mon livre hors de leur contexte. Enfin bref, il y a eu maldonne. Il y a eu même escroquerie intellectuelle. Monsieur Boulot a voulu faire le malin devant ses confrères.
Éric Zemmour peut-être en train de prendre conscience qu'une campagne, ça ne s'improvise pas ni sur le plan médiatique, ni sur le plan logistique, finance, organisation, déplacement. Le plus dur pour lui ne fait sans doute que commencer. Petit inventaire d'une campagne qui s'annonce très longue avec la brigade RTL. Bonjour Thomas Desprez.
Bonjour.
Alors il y a toute une série d'urgences pour Éric Zemmour. La première, c'est quoi ? Renforcer son équipe peut-être ?
Oui, on ne peut pas mener une campagne comme on mène une tournée littéraire. Allez, si on schématise, la campagne de Zemmour aujourd'hui, c'est encore une PME artisanale qui va devoir se transformer en grosse boîte bien organisée, et ce en très peu de temps. On devrait connaître l'organigramme dans les prochaines heures, la direction de campagne, les porte-paroles. On nous parle de 300 bénévoles qui travaillent déjà pour lui, mais impossible de vérifier le chiffre. Ce qui est sûr, c'est que quand on parle de ces bénévoles, deux mots reviennent, jeunesse, ça peut être un avantage, et amateurisme, ça l'est un peu moins, parce qu'à partir d'aujourd'hui, les choses sérieuses commencent. Il faut gérer les 500 parrainages, les levées de fonds, les déplacements. Pour ça, il faut de l'expérience, sinon c'est le fiasco assuré.
Il faut aussi de l'argent, Thomas, pour une campagne. Son meeting au Zénith dimanche, ça va coûter combien ?
Entre 180 et 200 000 euros. Rien que ça, 200 000 euros dépensés en 3 heures, imaginez. Il y a la location du Zénith, mais aussi les lumières, les écrans, la sécurité. Ça donne une petite idée du budget pour la campagne.
Et comment il finance tout ça ?
Alors, il y a les dons des particuliers, des petits dons, des prêts faits aux banques, mais il y a surtout beaucoup d'argent récolté lors de discrets dîners de levée de fonds. Éric Zemmour rencontre des donateurs depuis déjà quelques semaines. Selon nos informations, un de ces dîners est d'ailleurs prévu ce soir à Paris avec une douzaine d'entrepreneurs.
Alors l'organisation, l'argent, d'accord, il y a quelque chose qui ne s'achète pas, ce sont les soutiens.
Oui, on nous avait vendu Philippe de Villiers, figure de la droite conservatrice, créateur du Puy du Fou. Il ne sera pas là dimanche au Zénith officiellement pour protéger l'image de son parc. Éric Zemmour peut encore compter sur Jean-Frédéric Poisson, 1,45% à la dernière primaire de la droite.
Plus alléchant comme affiche.
Avec Éric Zemmour, ils se connaissent bien, son soutien doit être dealé dans les prochaines heures. Bon, on a donc parlé des soutiens, de l'argent, de l'équipe. Tout ça, c'est bien, mais c'est juste le minimum, c'est la base. Imaginez qu'on n'a même pas parlé du programme, du contact avec les Français. C'est ça, la réalité d'une campagne électorale qu'Éric Zemmour découvre tout juste.
La brigade RTL est le début de campagne d'Éric Zemmour ce matin avec Thomas Desprez. Merci Thomas.
Et pour eux, la semaine est décisive. Ils sont 5 ce matin. Dimanche, il n'en restera qu'un ou qu'une.
Oui, 5 candidats. Et au bout, l'investiture promise par les Républicains, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Michel Barnier, Éric Ciotti, Philippe Juvin. Le vote a démarré depuis quelques minutes. Les 140 000 adhérents peuvent s'exprimer en ligne. On connaît jeudi, en début d'après-midi, les deux candidats qualifiés pour le second tour. Et puis samedi, dans la soirée, là où le vainqueur. Nous sommes le 1er décembre et c'est aujourd'hui qu'entre en vigueur le dernier volet de la réforme controversée de l'assurance chômage. À quel changement faut-il s'attendre ? Qui est concerné ? Le point avec Anaïs Bouissou.
Premier changement, il va falloir travailler 2 mois de plus qu'avant pour avoir droit au chômage. Au moins 6 mois de travail au cours des 2 dernières années, sinon aucune indemnité. Ça va être plus dur hein, pour les étudiants qui arrondissent leur fin de mois avec un petit job d'été par exemple. Deuxième changement, il concerne surtout les cadres ou les chômeurs qui avaient un gros salaire avant de pointer à Pôle emploi. Je vous donne un exemple. Vous aviez 5000 euros bruts par mois en CDI depuis des années. Vous perdez votre travail. Alors pendant 6 mois, vous aurez la même allocation qu'avant, hein, 2810 euros par mois. Mais après, ça baissera. À partir du 7e mois, vous perdrez 255 euros tous les mois. C'est ce qu'on appelle la dégressivité. Et le but, bah, c'est bien sûr de vous inciter à reprendre du boulot au plus vite.
Anaïs Bouissou, le groupe Sanofi a décidé de porter le congé parental à 14 semaines minimum pour tous ses employés, hommes et femmes, partout dans le monde. Au sein de la branche française, le congé paternité va ainsi passer de 28 jours à 14 semaines. RTL est au Mali toute la semaine et jusqu'à dimanche. Émilie Bojard nous fait vivre le départ des soldats français de la force Barkhane dans l'une des dernières bases encore occupées par nos militaires à Tombouctou, dans le nord du pays. Le démantèlement a démarré. D'ici 15 jours, la plupart des soldats seront partis. Eux resteront jusqu'au bout parce qu'ils sont essentiels au dispositif. Les infirmiers, Émilie Bojard les a rencontrés.
À l'intérieur de la tente climatisée de l'infirmerie, la sergent-chef Julie fait un point sur les stocks de médicaments disponibles. Ici, le plus compliqué, c'est la chaleur. Il fait jusqu'à 40 degrés dans la journée.
On les conserve tout le temps au frigo. Et quand l'équipe médicale sort avec le véhicule blindé, on a aussi une glacière à l'intérieur pour justement que ces médicaments restent bien au frais.
Julie et l'équipe médicale partiront avec le dernier convoi. Et d'ici là, il faut veiller sur les 200 militaires présents sur place.
Mais en fait, un petit bobo ici peut devenir un gros bobo en quelque sorte. parce qu'avec le climat et tout ça fait que ça peut se surinfecter facilement, donc on essaye de toujours prendre en charge au plus tôt. Là récemment, on a eu 2 piqûres de scorpions, puis après des petits bobos, des gens qui tombent, des points de suture à faire, voilà.
Autour d'elle, les tentes sont démontées une à une, des véhicules et du matériel sont déjà partis. Le capitaine Fabrice, en charge de cette opération de désengagement, sera lui aussi présent jusqu'au dernier moment.
C'est une page d'histoire qui se tourne, il y a un renouveau pour le Mali, donc c'est toujours un moment d'émotion et qui met un terme à 8 ans de présence.
Les derniers convois partiront mi-décembre. Le drapeau français qui domine toute la base de Tombouctou sera alors définitivement replié.
Un reportage RTL d'Émilie Bojard au Mali à retrouver en images dans les journaux d'info d'M6 à 12h45 et à 19h45.
Dans un instant, la très belle histoire du jour, c'est celle d'un SDF de 36 ans qui n'a pas hésité à braver le feu pour aller sauver des flammes un commerçant lyonnais. Il témoigne dans un instant. À tout de suite sur RTL, il est 8h10. Bonne journée à tous.
RTL Matin.
8h11, la suite du journal de Dominique Tenza. C'est sans doute ce que l'on appelle un héros, même s'il lui refuse le terme.
Fabrice, 36 ans, est SDF à Lyon, installé quartier Saint-Jean. Lundi, en milieu de journée, il aperçoit une boutique en train de brûler, un magasin de brocante ravagé par les flammes. À l'intérieur, le propriétaire, âgé de 71 ans, est au sol. Impossible pour lui de se relever. C'est là que Fabrice intervient et raconte au micro de Frédéric Perruche.
Je suis rentré, j'ai fait quelques mètres et j'ai heurté quelque chose qui était par terre, allongé. Et c'était le monsieur. Il était conscient, mais il ne pouvait pas bouger. Il était par terre.
Avec dans les fumées, etc.
Dans les fumées, il y avait des flammes autour de lui. C'est comme ça qu'il a la main brûlée, je pense. Moi, je n'ai pas cherché à comprendre. Je l'ai pris, je l'ai sorti. Et quelques temps après, tout brûlait.
Du coup, vous l'avez sauvé ?
Ouais, parce que 3 minutes après, tout est en feu. Donc ouais, je l'ai sauvé, même si pour moi, c'est un grand mot. Tout le monde me félicite, mais je ne réalise pas, en fait. J'ai fait mon devoir de citoyen. Je suis passé par là, il y avait une vie à sauver, je l'ai sauvé, et c'est normal. Je suis juste un SDF qui fait la manche juste à côté.
Le monsieur vous a remercié, il a eu le temps, il a été en état.
À mon avis, il est encore à l'hôpital, je l'ai encore pas vu. Pour me remercier, il me paye un café, et je serai content. Puis discuter, puis pour lui dire qu'il a rien à me devoir. Parce que moi, pour moi, il a tout perdu, lui. Moi, j'ai rien perdu parce que j'ai rien.
Un document RTL recueilli par Frédéric Perruche.
T'es à l'étranger, aux États-Unis, pardon. Cette nouvelle fusillade dans un lycée du Michigan.
Non, c'est un élève de 15 ans qui a ouvert le feu avant d'être arrêté par la police. 3 adolescents ont été tués, 8 personnes blessées. La police ignore pour l'instant ce qui a motivé ce passage à l'acte. Paris et Londres, mis en cause une semaine après le naufrage de 27 migrants dans la Manche. L'un des rescapés a raconté hier à la télévision kurde avoir tenté de joindre simultanément la marine britannique et la marine française pour appeler à l'aide, expliquant que les deux se serait renvoyé la balle, ce que contestent les deux pays qui disent n'avoir reçu aucun appel.
Le secteur du livre se porte particulièrement bien, il faut s'en réjouir, d'autant plus qu'à l'heure du tout digital, il continue de séduire les jeunes.
Et les chiffres, écoutez bien, sont impressionnants. 75 millions d'ouvrages achetés cette année pour les jeunes lecteurs, c'est 10 millions de plus que l'an dernier. Un succès que l'on doit en partie au dernier Astérix, mais pas que, Nathan Bocard.
Oui, car pour beaucoup d'enfants, la lecture reste un passe-temps important. Hortense, par exemple, a 7 ans et c'est son activité préférée.
Je trouve que ça détend et c'est amusant et on apprend des choses aussi.
Qu'est-ce que t'as lu ces derniers mois ?
Des Martine, des Martel Adèle, des Doc.
Mais pour certains, la passion reste jusqu'à l'adolescence. Vadim lisait pour s'endormir quand il était enfant. Et aujourd'hui, à 14 ans, il y trouve toujours beaucoup de bienfaits.
Pouvoir se détendre, faire le vide dans sa tête... Penser à rien, se concentrer sur l'histoire.
T'as des coups de cœur récemment ?
Le nouveau Astérix et Obélix.
Ce succès, la littérature jeunesse le doit particulièrement à certains formats. Sonia Petit est responsable du rayon jeunesse de la librairie ici, à Paris.
Les albums pour les 3-6 ans, c'est un secteur qui se porte très bien. Les documentaires, ça marche bien parce que ça fait travailler tout en étant un peu fun, quoi. L'effet série, ça marche très bien. Et beaucoup de parents lisent par exemple une grande série comme Lecture du soir.
Et en effet, les 5 plus gros succès en lecture jeunesse cette année sont des séries avec en tête l'indémodable Harry Potter.
Nathan Bocard pour RTL et puis à partir de 9h dans Laissez-vous tenter, Laurent Marsic nous donnera le nom du gagnant ou de la gagnante du premier concours RTL, du premier roman jeunesse. Un mot de football pour vous signaler que la 16e journée du championnat de Ligue 1 a lieu ce soir. 5 matchs à 19h, 5 à 21h. Nantes se déplace à Marseille, Rennes accueille Lille, Lyon reçoit Reims et Nice fait le déplacement au Parc des Princes. Face à un Paris Saint-Germain privé de Neymar et sans doute de Messi, qui aurait fêté un peu trop son ballon d'or lundi soir. Il souffre officiellement d'une gastro.
Pourquoi officiellement ?
Je ne sais pas.
Non, mais tout le monde dit officiellement ce matin. C'est en quelque sorte comme si on mettait en doute l'engagement de Messi.
Non, mais le rapport entre la petite fête après le ballon d'or et la gastro n'est pas forcément évident.